Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
7h10, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux, comme chaque dimanche. Un rendez-vous exclusif RMC. Nous sommes les seuls à vous proposer donc 2 heures dédiées aux animaux tous les dimanches, 6h-8h. Notre vétérinaire est là pour répondre à vos questions au 32-16. Laetitia, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais il semblerait que caresser un chat peut être mortel. On en parlera tout à l'heure.
Ce qu'on a lu dans les magazines, mais bon, on va revenir dessus.
On ira aussi du côté de la Réunion. La Réunion qui rapatrie en fait des animaux qui sont proposés à l'adoption,
voilà,
qui quittent l'île pour venir en métropole.
Voilà, et on saura pourquoi avec l'association Sauvade. On va parler des vers de terre qu'il faut sauver parce qu'ils sont en voie de disparition. On finira sur un nouveau sport, le canitriathlon.
Et on va commencer par la maltraitance dans les abattoirs.
Et oui,
un sujet qui, encore une fois, malheureusement, a fait l'actualité cette semaine.
Et oui, parce que vous savez qu'on en a parlé régulièrement dans cette émission. Et la commission d'enquête parlementaire vient de rendre son rapport. Et nous sommes avec Frédéric Freund, qui est directeur de l'association OABA, qui est l'œuvre d'assistance, aux bêtes d'abattoir. Frédéric, bonjour.
Bonjour Laetitia,
bonjour
François.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que suite aux nombreux scandales révélés, cette commission a été créée, elle vient de rendre son rapport. Les députés préconisent pas moins de 65 mesures pour améliorer les conditions de mise à mort des animaux. Alors, votre association, l'OABA, comme d'autres d'ailleurs, a été auditionnée par cette commission.
Oui.
Êtes-vous satisfait des conclusions du rapport?
Majoritairement oui, puisque lorsque l'on regarde le compte-rendu de l'audition de l'OABA et puis les 65 mesures qui ont été rendues publiques cette semaine, on n'est pas très loin du copier-coller.
Donc on
serait mal
placé. Donc on vous a bien écouté.
On nous a bien écouté. Il faut quand même saluer le travail qui a été fait par l'ensemble des membres de la commission d'enquête parlementaire, au premier rang desquels le président, le député Olivier Falorni. La commission a fait un gros travail. Ils ont auditionné une quarantaine de personnes, il y a eu pas mal de réunions, ils se sont même déplacés très tôt le matin dans plusieurs établissements d'abattage.
Oui.
Et ils ont effectivement constaté ce que constatait depuis des années l'OABA et récemment d'autres associations, également ce que ont constaté les services officiels qui ont visité l'ensemble des abattoirs au mois d'avril dernier,
oui,
à savoir des dysfonctionnements. Dysfonctionnement quelquefois mineur, mais quelquefois beaucoup plus grave.
Oui,
et donc,
oui,
les 65 mesures vont dans le bon sens. Gageons qu'elles seront suivies d'effet, que ce ne sera pas un rapport.
Oui, c'est juste des mesures. Alors, c'est des propositions, donc ce n'est pas une loi non plus. Par exemple, il y a dans les mesures préconisées, il y a, on en a beaucoup parlé, la vidéosurveillance obligatoire. Qu'en pensez-vous?
La vidéosurveillance, alors. Bon, dans vidéosurveillance, il y a vidéo, il y a surveillance, formidable. La vidéo, oui, la surveillance, ça fait déjà un petit peu plus peur, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le ministre de l'Agriculture n'était pas très emballé au départ.
Oui.
Visiblement, il a changé d'avis, comme quoi on a quand même un ministre qui écoute et qui regarde. Il faut pas considérer la vidéo, ou plutôt l'enregistrement vidéo, comme étant la panacée. Ça nous semble être tout à fait nécessaire.
Oui, mais c'est une mesure, bien sûr.
C'est une mesure, mais pas simplement avec une finalité, on va dire, de flicage coercitive. Ça peut être aussi, et c'est pour ça que le ministre a évolué sur cette question, l'enregistrement vidéo peut aussi être un outil de formation. C'est-à-dire que si un abattoir, un jour, il y a un souci, eh bien, il réunit l'ensemble de ses salariés, il diffuse des images,
oui,
et voilà.
Regardez, voilà, ça c'est pas bon, voilà pourquoi c'est pas bon, ou alors ça c'est bon, voilà pourquoi c'est bon.
Alors,
donc ça peut être un outil de contrôle, mais surtout aussi un outil de formation.
Alors justement, la formation, ils mettent l'accent, justement, les députés, sur la formation des employés. Ils mettent aussi l'accent sur une augmentation, et ça, on le demande depuis longtemps, des effectifs vétérinaires pour accroître les contrôles. Alors concernant la formation, comment sont-ils formés aujourd'hui les employés d'abattoirs?
Alors, depuis l'entrée en vigueur du règlement européen, donc depuis 2013, tout opérateur d'abattoir doit être titulaire de ce qu'on appelle le certificat de compétence. Ce certificat de compétence, il s'obtient à la suite d'une formation qui peut durer une demi-journée ou jusqu'à deux journées, en fonction des différents modules que vous avez à passer. Plus vous avez de responsabilités dans l'abattoir, plus vous avez de modules à passer.
Oui.
Donc une demi-journée ou deux journées. Et ensuite, ces acquis, ces connaissances sont validées par un QCM. Bon, donc si je voulais être méchant, je dirais, bah voilà, le mouton, il a une patte, deux pattes, trois pattes, quatre pattes, cochez la bonne case. Bon, mais on voit bien que c'est une formation essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, théorique. Il n'y a pas de formation pratique.
Alors que c'est un métier pratique.
Alors que c'est un métier pratique, parce que si, effectivement, vous êtes doué pour mettre des croix dans une case pour remplir un QCM, lorsque vous avez l'animal vivant face à vous, c'est quand même différent, hein, avoir un...
C'est bien que justement cette commission ait mis en avant que voilà, il y a aussi un problème de formation qui peut expliquer aussi ces dérives dans ces abattoirs.
Mais oui, parce qu'on a pas mal d'opérateurs qui font des bêtises, qui se comportent violemment avec les animaux, pas parce que ce sont des sadiques comme quelquefois on peut le lire ou l'entendre, mais tout simplement parce qu'on ne leur a pas expliqué pourquoi, par exemple, ils vont étourdir un animal, ou on ne leur a pas expliqué les règles de base d'éthologie, c'est-à-dire le comportement de l'animal. Un bovin, par exemple, ne voit pas de la même façon qu'un humain.
Et oui.
Donc, si vous avez un couloir avec un couloir damné dans lequel le bovin avance, et puis tout d'un coup vous avez un éclairage violent, eh bien la pupille du bovin va mettre beaucoup plus de temps que celle de l'humain pour s'adapter, et donc l'animal étant ébloui, il va s'arrêter.
Et bien sûr.
Si l'opérateur n'a pas cette base élémentaire de connaissances, eh bien, il va tout de suite s'énerver, dire bah, pourquoi l'animal s'arrête, et donc va prendre le bâton et va lui taper dessus. Alors que s'il a cette connaissance, bah, il va attendre 5-6 secondes, et puis l'animal va reprendre sa route normalement.
Bien sûr,
voilà.
Évidemment.
Oui, c'est vrai, c'est tout bête, mais il faut bien la formation. Ça c'est vraiment très bien qu'ils mettent l'accent dessus et qu'ils disent justement, en plus, il y a beaucoup de mesures sur la formation. C'est pas seulement reprendre la formation, c'est vraiment des mesures très précises. Alors, aussi, parlons de l'abattage rituel, parce que l'abattage rituel est autorisé sans étourdissement préalable de l'animal, ce qui pose débat en France, ce qui pose problème en matière de bien-être animal. Alors, le rapport préconise, alors vous allez nous expliquer ce que c'est, l'étourdissement réversible et l'étourdissement post-jugulation.
Alors,
qu'est-ce que c'est?
Alors, déjà, l'étourdissement, on peut se demander c'est quoi. L'étourdissement, c'est tout simplement rendre insensible l'animal au moment de la saignée, pour justement lui éviter la douleur.
La souffrance,
voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle l'étourdissement réversible, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui est appliqué généralement à un dispositif électrique, donc qui va entraîner une inconscience chez l'animal, mais une inconscience temporaire. C'est-à-dire que si on attend 10, 15, 20 secondes, l'animal va
reprendre
se réveiller.
D'accord.
Voilà,
ouais.
Il va se réveiller. Donc l'étourdissement réversible ne tue pas l'animal, entre guillemets, il l'endort, il l'insensibilise. Voilà. Et on a beaucoup de responsables des cultes, musulmans et juifs, qui nous disent qu'ils doivent procéder à la saignée de l'animal vivant. Or, l'étourdissement réversible, en ce qu'il endort l'animal et ne le tue pas, serait donc parfaitement compatible avec la pratique du rite.
Oui.
Bien sûr.
Donc, la commission tire les conclusions scientifiques et d'interprétation des textes religieux et considère, à juste titre, qu'un étourdissement réversible serait donc parfaitement compatible avec la pratique d'un abattage rituel.
D'accord.
Bah ça, c'est bien. Ça fait évoluer. Enfin, c'est des propositions. Après, on sait
oui,
que ça ne va pas...
Oui, c'est des propositions. Alors, vous savez, sur l'abattage rituel, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis à l'OEBA. Ça fait plus de 10 ans qu'on discute avec les responsables.
Et bien sûr.
C'est possible. Tout le monde nous dit oui. Mais bon, il faudrait passer la vitesse supérieure. C'est pour ça que...
Dans d'autres pays qui font aussi de l'abattage rituel, il y a un étourdissement.
Oui, alors, dans certains pays, il y a un étourdissement. Il faut aussi quand même le noter qu'en France, dans certains abattoirs, on a certains sacrificateurs qui tolèrent et qui appliquent cet étourdissement. Hein, c'est pas monolithique, hein. Il y a pas, c'est pas blanc, c'est pas noir.
Oui.
Il y a autant, je dirais, de diversité des pratiques qu'il y a d'abattoirs. Il faudrait un peu uniformiser, et le moyen d'uniformiser, ce n'est pas de se baser sur un texte religieux qui diffère dans son interprétation, d'accord, dans le temps et dans la géographie. C'est simplement se revenir aux fondamentaux scientifiques, aux bases scientifiques, comme on l'a toujours dit à l'OABA, l'abattage rituel est et doit rester un sujet technique, scientifique et surtout pas politique, parce que sinon on n'avancera jamais sur la question.
Et bien sûr, bien sûr.
Merci Frédéric Frande.
Merci Frédéric.
Merci beaucoup.
Merci. On va suivre ça, parce que là ce sont des propositions, peut-être que ça va aboutir sur une loi ou des arrêtés, en tout cas.
On espère que
les politiques vont suivre ces préconisations des députés qui vont pas contre les abattoirs, qui vont pas contre ça, mais qui permettent justement une amélioration des conditions d'abattage de nos animaux.
On a bien compris, Laetitia. On revient dans un instant, on poursuit ce rendez-vous animaux. Et nous allons aller du côté de la Réunion. Vous allez voir, avec cette initiative intéressante pour rapatrier des animaux vers la métropole. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Voilà, 7h22, le retour du week-end des experts, les animaux. Laetitia, direction l'île de la Réunion maintenant.
Et oui, nous sommes avec Delphine Diaz de Sa, qui est présidente d'une association qui s'appelle Sauvad. Delphine, bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour Delphine.
Bonjour, bienvenue. Alors, votre association est toute jeune, elle a 6 ans, mais vous avez déjà sauvé plus de 2000 animaux, des chats et des chiens, à la Réunion. Alors, dites-nous comment vous avez créé cette association.
Alors au départ, ce sont des métropolitains qui sont partis s'installer sur la Réunion.
Oui.
Et qui, choqués, si vous voulez, par toute cette détresse animale, sur place, ont décidé de monter une sorte de pont humanitaire entre l'île de la Réunion et la métropole. Alors aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont pris le relais pour continuer l'aventure. Hein.
Oui, des bénévoles.
Des bénévoles, voilà, effectivement. Alors, il est vrai que la Réunion est un département français, mais les conditions de vie des chiens et des chats sur place n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît ici en métropole.
Alors, justement, dites-nous un peu comment ça se passe là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup de chiens et de chats errants.
Tout à fait, malheureusement. Il y en a vraisemblablement beaucoup moins dans la capitale, à Saint-Denis, actuellement. Mais ils sont encore très très nombreux sur le reste de l'île.
Oui.
Les abandons sont malheureusement le quotidien.
Chez vous aussi.
Oui.
Et est-ce que vous avez des campagnes de stérilisation? Parce que ça, c'est très important sur les îles, justement, de stériliser tous ces animaux errants.
Alors, les autorités, effectivement, ont lancé des campagnes. Elles sont régulières, c'est vrai, mais malheureusement trop partielles, parce que soit elles sont localisées dans certaines zones de l'île, ou uniquement sur certaines périodes de l'année. Mais même malheureusement avec ces campagnes, les gens sur place ne sont pas forcément sensibilisés, si vous voulez, au fait de faire stériliser leurs animaux, comme dans beaucoup d'îles d'ailleurs, il n'y a pas que la Réunion.
Bien sûr.
Oui.
Alors, vous proposez de rapatrier les animaux que vous proposez à l'adoption en métropole. Pourquoi rapatrier des animaux en métropole? Est-ce que les adoptions sont difficiles à la Réunion?
Alors, d'abord, tout d'abord, les refuges là-bas sont complètement saturés.
Oui.
Il y a actuellement un nombre très élevé d'euthanasies qui s'élève à 10 000 d'euthanasies par an, en fait.
Ah oui, quand même.
Oui. Donc, si vous voulez, pour nous les envoyer en métropole, grâce à l'aide des voyageurs, toujours, ça nous paraît la seule solution actuelle pour les sauver et les faire adopter. Alors, hélas, les possibilités d'accueil sur l'île sont très restreintes, parce que du fait du grand nombre d'animaux errants, déjà, et puis la place de l'animal au sein d'un foyer font que ces adoptions sont plus compliquées sur place.
C'est-à-dire que les Réunionnais ont moins d'animaux qu'en métropole, ou la place est différente, c'est ça?
La place de l'animal est différente, effectivement. Culturellement parlant, Nous, l'animal a une place en métropole dans le foyer. C'est un animal qui va être identifié, qui va être stérilisé, qui va être vacciné, dont le bien-être est important, si vous voulez. Alors pas que sur la Réunion. Les choses sont différentes. On a des gens qui sont très sensibles à cette errance. Et il y a des gens qui ont peu de moyens et qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que culturellement parlant, on va dire, et il n'y a pas que la Réunion, hein, la place de l'animal est différente.
Bon, et puis c'est vrai que vous avez beaucoup d'animaux à adopter. Et voilà, il y a peut-être pas assez de solutions sur place. Donc vous proposez de rapatrier les animaux, mais alors vous les rapatriez, vous demandez à des voyageurs de prendre, c'est ça, des animaux avec eux en soute, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. En fait, le voyageur nous contacte.
Oui.
Nous, on s'occupe de tout, donc d'inscrire l'animal sur son billet. Il y a un représentant de l'association qui accompagne l'animal, muni de son carnet de santé, jusqu'au voyageur pour l'enregistrement. Mmh. On règle tous les frais, en fait, occasionnés par ce transport.
Oui.
Et ensuite, un représentant est à l'arrivée pour accueillir l'animal, en fait. Alors,
chat et chien,
tout à fait.
Donc, vous proposez en métropole des chats ou des chiens réunionnais
oui,
à l'adoption.
Absolument.
Ça va, l'acclimatation se fait bien?
Très, très bien. Parfait. Ils ont une faculté très, très importante d'acclimatation. Sont toujours des loulous. Alors, ils sont nés au soleil, donc ils ont toujours, voilà, ils sont toujours très heureux. Et non, ça se passe très, très bien.
Ils aiment bien le cocooning.
Exactement.
Écoutez, merci beaucoup.
Merci,
c'est vraiment une deuxième chance qu'on leur propose à tous ces animaux, chats et chiens.
Initiative.
Donc c'est votre association s'appelle l'association Sauvade.
Sauvade.
Voilà, nous mettrons donc asso-sauvade.fr. Nous mettrons les coordonnées sur Facebook et puis vous pouvez aider cette association aussi par des dons, en parrainant des animaux aussi. Et puis si vous partez à la Réunion et que vous revenez par exemple pour les vacances, et ben profitez pour mettre sur votre billet d'avion, un animal en plus en soute, voilà, ça vous coûtera rien et ça, c'est l'association qui réglera les frais.
Dans un instant, la météo, les infos sur RMC, bientôt 7h30 et on évoquera les chats. Caresser son chat est-il mortel? Après l'apparition d'un article américain, on peut se poser la question. Pas d'inquiétude, hein, on va en parler dans un instant. À tout de suite.
RMC, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlera.
On va parler de foot il y a un instant avec Thomas Chupin. Tout à l'heure, on va parler de sport avec les animaux. Le Cani Triathlon cet après-midi dans le sud-ouest. Laetitia, on va découvrir ça. C'est exactement...
À Vieux-Bocaux-les-Bains, c'est dans les Landes.
À Vieux-Bocaux-les-Bains, voilà. On va en parler tout à l'heure. On va évoquer aussi les vers de terre. Il faut les protéger, ces vers de terre.
Et oui, ils sont en voie de disparition. On s'intéresse à tous les animaux dans cette émission. Excusez-moi.
Faites attention où vous marchez.
Faites attention. Dites à vos poules de laisser tranquilles les vers de terre.
Exactement.
Voilà.
Mais revenons quand même sur cette histoire qui a bien fait le buzz cette semaine. Caresser son chat deviendrait-il mortel, Laetitia?
Eh oui, c'est un article américain qui accuse les chats de transmettre une grave maladie à l'homme. Et pour vraiment rétablir la vérité et savoir de quoi on parle, nous sommes avec le docteur Anne-Claire Gagnon, qui est vétérinaire, spécialiste de la médecine, et du comportement du chat. Elle est auteure aussi de « Ce chat qui a changé ma vie » et « Mon chat sur le divan », deux livres aux éditions Larousse. Anne-Claire, bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que, selon les médias, caresser votre chat pourrait vous tuer. En fait, on regarde un petit peu cet article, les scientifiques mettent en garde contre ce qu'on appelle la maladie des griffes du chat. Alors c'est une maladie que nous, vétérinaires, nous connaissons bien. Alors, qu'est-ce que c'est cette maladie, la maladie des griffes du chat?
Alors, la maladie des griffes du chat, c'est une maladie qui est due à une bactérie qui est hébergée par les chats, mais les chats en général ne font absolument aucun symptôme, et qui est transmise et hébergée aussi par les puces. Et là où l'article américain a un petit peu raison, mais c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est qu'en fait, les grandes ennemies, ce sont les puces.
qui peuvent donc c'est la maladie des puces, quoi.
Oui, à peu près, mais voilà. Et donc, chez l'humain, ça provoque des symptômes qui sont une fièvre, un ganglion qui va gonfler à peu près à l'endroit où on a été griffé par un chat, parce que c'est vrai que dans la maladie, ce sont les griffes du chat qui vont injecter dans notre peau les crottes des puces, je suis désolée parce qu'à cette heure-ci, c'est pas sympa comme...
Oui, non, mais on en a vu d'autres.
Vous avez l'habitude.
Voilà. Oui, Anne-Pierre, on en a vu d'autres.
Donc,
vous inquiétez
alors,
pas.
Hein. Je résume. Les puces font des crottes qui
exactement,
se retrouvent
qui
sous les griffes du chat.
Font les bactéries de
voilà.
La maladie des griffes du chat, Bartonella ancellae. Et quand le chat vous griffe, il peut malheureusement vous l'injecter. Pour autant que le chat ait des puces, parce que c'est ça le problème.
Eh oui. Eh ben oui, voilà, parce que nos chats, qui, s'ils sont bien traités contre les puces, il n'y a pas de problème. Alors, nous vétérinaires, on a, je pense, tous eu au moins une fois cette maladie des griffes du chat avec un ganglion qui gonfle suite à une griffure de chat. Mais à part ça, est-ce que, ça n'a pas été mortel. Est-ce que cette maladie est vraiment grave?
Non, alors d'abord, je pense que tous les vétérinaires la font même pas. Donc, ce qui veut dire
je l'ai faite. Hein.
Non, ce qui veut dire que l'incidence est relativement faible. Et dans l'étude américaine, ils ont montré, ils pensaient qu'il y avait 20 000 cas par an. Il n'y en a que 12 000 aux États-Unis. C'est une maladie qui est bénigne. Ça guérit spontanément, surtout chez les personnes qui sont immunocompétentes, donc en pleine santé. Et
c'est plutôt dangereux pour des personnes immunodéprimées qui sont sous traitement.
Voilà. Sous traitement, sous chimio ou des personnes HIV positives. Donc là, il faut effectivement faire attention.
Alors, est-ce que tous les chats peuvent transmettre cette maladie, même tous les chats qui ont des puces?
Alors non, c'est les chats qui sont infectés, mais on ne peut pas les dépister, et puis ça n'a finalement aucun sens. Et ce qui a été montré, c'est que si on met ensemble des chats infectés et des chats sains, s'il n'y a absolument pas de puces, s'ils sont bien traités, la maladie ne se transmet pas. Donc en fait, la solution, c'est quand même de bien les traiter avec des antiparasitaires.
Bah alors, dans l'article, ils disent qu'on peut contracter la maladie seulement en caressant le chat. Ça veut dire quoi, ça?
À mon sens, c'est vraiment tiré par les cheveux, parce que ça veut dire qu'avec les mains et sous nos ongles, il faut quand même rappeler que les chats ont des griffes qui sont des armes blanches, et nous, on a aussi des ongles qui sont aussi des armes blanches. Et que si effectivement le chat est ce qu'on appelle malheureusement, ce qui est très désagréable pour lui, un sac à puces, avec le poil rempli de crottes de puces, il peut... Mais encore une fois, c'est quand même tiré par les cheveux comme...
Oui. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on gratte les crottes de puces sur le chat, quoi.
Oui, c'est ça, et que on en est sous nos ongles et qu'ensuite on est une petite plaie. Enfin, c'est compliqué. Alors, dans les symptômes rares, c'est vrai qu'il peut y avoir des conjonctivites qui peuvent être embêtantes. Donc effectivement, il faut toujours se laver les mains une fois qu'on a caressé. Il y a des tas de choses de bon sens à faire. Toujours se laver les mains après avoir caressé un chat, mais toujours se laver les mains aussi après avoir jardiné.
Voilà. Pas se frotter les yeux quand on vient de jardiner ou quand on vient de caresser un chat, tout simplement. Donc il n'y a pas de risque. Quelles sont les autres maladies que le chat peut nous transmettre?
Alors, on l'accuse toujours aussi de pouvoir nous transmettre la toxoplasmose. En fait, c'est pas lui non plus le coupable. Le coupable, c'est de manger de la viande qui a été mal cuite et contaminée. Et puis, le coupable, ça peut être nous aussi pour la toxoplasmose, parce que il faut absolument faire le bac du chat tous les jours. Si ça reste dans le bac deux jours, malheureusement, du coup, le cycle du toxoplasme se fait et les matières sont plus contaminantes.
Et oui.
Encore une fois, pour les femmes enceintes, il n'y a pas de problème si c'est le bac est fait tous les jours, il n'y a aucun risque.
Alors, si on se fait mordre ou griffer par un chat, ça peut arriver. Quels sont les conseils? Que alors, faut-il faire en premier?
première chose, il faudrait tendre la main au chat. Je sais que c'est très difficile, mais c'est quelque chose que j'explique toujours aux étudiants vétérinaires, tout simplement pour pas qu'il y ait plus de dégâts. Faire un peu ce qu'on appelle la panthère, plus bouger. Deuxième chose, c'est mettre la main...
C'est-à-dire, quand il vient de griffer ou de mordre, il ne faut pas...
Faut avancer vers eux, tout simplement, pour pas... Parce que sinon, ils tirent, et c'est beaucoup plus drôle, et il y a beaucoup plus de dégâts dans la morsure.
Ah, d'accord.
Mais après, ce qu'il faut faire, c'est mettre la main sous l'eau avec du savon de Marseille, laver abondamment, surtout pas refermer la plaie, et éventuellement, et même toujours, laisser tremper la main, la partie qui a été mordue, dans de l'eau et du savon de Marseille, 5 à 10 minutes. D'abord parce que ça calme, parce qu'on est toujours énervé après s'être fait griffer ou mordre. Mm-hmm. Et puis surtout parce que ça permet d'enlever les bactéries. Et là, c'est la pasteurellose qui peut surtout nous atteindre et donner de la fièvre ou un phlegmon. Donc voilà, faire ça et aller voir un médecin si vraiment...
Et désinfecter
Désinfecter avec de l'eau oxygénée ou avec des désinfectants, mais pas avec de l'alcool, ça c'est certain. L'eau, le savon de Marseille, c'est encore ce qui est le mieux.
Merci.
Merci beaucoup, Anne-Claire.
Vous nous rassurez.
Oui.
On peut caresser ces chats.
Oui. Son chat. Et surtout, il faut absolument les traiter contre les puces. Ça, c'est une évidence absolue. D'abord, pour leur confort à eux, parce que c'est vraiment, on se rend pas compte à quel point c'est irritant pour un chat de se faire piquer à longueur de journée.
C'est comme s'ils avaient des moustiques tout le temps, quoi.
Oui.
Voilà. On imagine.
Merci beaucoup, Anne-Claire. À bientôt.
Merci. Bonne journée.
Au revoir.
Voilà, et à 8h20, on revient dans un instant. Laetitia, sur RMC, on va protéger les vers de terre ensemble. Voilà. Et puis on découvrira un cani triathlon qui a lieu cet après-midi dans le sud-ouest. A tout de suite, c'est RMC.
RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, nous sommes de retour, c'était RMC, le week-end des experts, les animaux. Jean-Luc Moreau sera là à mes côtés à partir de 8h pour 2h dédiées à l'automobile. Jean-Luc, qui, vous le savez, répondra à toutes vos questions auto. L'essai de la semaine, ce sera la Volvo V90 D5 AWD. Le bon plan, peut-on vendre une voiture sans carte grise? Et puis, on s'intéressera à toute l'actualité dans le domaine de l'auto avec vos questions, bien évidemment. Laetitia, il faut sauver, non pas le soldat Ryan, mais les vers de terre.
Et nous sommes avec Benoît Hartmann, qui est directeur de l'association France Nature Environnement. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, pas moins de 350 associations européennes, dont 32 françaises, ont lancé jeudi une pétition pour sauver, donc on disait, non pas le soldat Ryan, ni le panda, ni le rhinocéros, mais le ver de terre. Alors, pourquoi cette mobilisation?
En fait, c'est une mobilisation qui se justifie simplement, c'est que, vous voyez, on a des lois pour protéger l'air, on a des lois pour protéger l'eau, mais on n'a aucune loi pour protéger les sols.
C'est vrai.
Et le lombric, il est très symptomatique de la vie des sols. C'est un bio-indicateur, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que quand un sol qui va bien, c'est un sol qui a beaucoup de lombric, et s'il y a beaucoup de lombric, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'autres espèces. Pour une espèce de ver de terre, il y en a des dizaines que nous ne voyons pas, des vers plats, et beaucoup d'autres espèces qui vivent dans le sol et qui garantissent, en fait, pour nous, la productivité de ce sol, mais qui garantit aussi une grande productivité naturelle et une grande biodiversité.
Alors, je me rappelle que c'est Charles Darwin qui, au 19e siècle, a été le premier à s'intéresser aux vers de terre. Je sais que juste à l'époque, les gens faisaient en sorte justement de l'éliminer, le ver de terre. Ils pensaient que c'était un nuisible, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il enrichit en fin de compte les terres.
Ah, il nous rend des grands services. Non seulement il ameublit la terre, ce qui évite qu'elle soit trop tassée et que donc on puisse continuer à planter les choses dedans, mais par ailleurs, il mange des matières organiques, il les digère, et donc il restitue ensuite un certain nombre d'éléments qui peuvent enfin être consommés par les plantes et par d'autres animaux. Donc il nous rend des très grands services, il ne mange que des détritus, donc il ne mange pas de racines vivantes, et donc il ne nuit absolument pas aux cultures, c'est certain.
Alors, François, est-ce que vous savez ce qu'est un géodrilologue?
Non.
C'est un spécialiste du ver de terre.
Ah oui.
Et justement, ces spécialistes, ces scientifiques disent qu'il y a aujourd'hui 4 fois moins de vers de terre qu'il y a 40 ans. Quelles sont les causes de leur disparition?
Ah, écoutez, il y a un certain nombre de traitements, de pratiques agricoles, malheureusement, qui sont très nuisibles à la vie du ver de terre. Je parlais tout à l'heure du fait qu'un sol tassé ne lui est pas favorable, mais de la même manière, des labours très profonds lui sont pas favorables parce qu'il n'aime pas se retrouver à l'air libre. Et surtout, les traitements, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de traitements de sol et de pollution des sols qui lui nuisent gravement. Mais il faut pas penser qu'à l'agriculture.
C'est-à-dire les pesticides, vous pensez à ça?
C'est ça, un certain nombre de pesticides, un certain nombre de traitements, en fait, qui ne visent pas spécifiquement le ver de terre, mais qui lui nuisent. Mais il faut penser aussi à l'artificialisation, le fait que on artificialise un département, l'équivalent d'un département tous les 7 ans en France, donc des zones entières qui deviennent imperméables, qui sont couvertes par des routes, par des villes, et qui donc ne deviennent absolument plus propres à la vie des vers de terre. Donc il y a 3 types d'agressions, l'une liée à l'agriculture, l'autre liée à la pollution industrielle des sols, et une troisième qui est liée à l'artificialisation.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces petits invertébrés aèrent les sols. Et c'est important.
Patrick Mirel, notre expert jardin, en parle souvent.
Voilà, d'ailleurs. Mais c'est important aussi, parce qu'on a connu cette année des inondations, vous le savez. Or, justement, le fait qu'il y ait des vers de terre permet de drainer l'eau dans les sols.
Exactement. Quand je parlais tout à l'heure d'ameublir des sols, un sol meuble, c'est un sol qui est bien plus perméable et qui, entre autres, peut absorber plus facilement une crue, comme on en a vu. Oui. Si on a des sols qui sont très tassés, malheureusement, notre milieu n'absorbe pas bien l'eau et donc les crues ont des effets bien plus dévastateurs. Donc oui, ils nous aident à drainer nos sols, ils nous aident à les rendre meubles, cultivables, mais aussi à ce que nos sols puissent jouer leur rôle d'éponge, c'est-à-dire absorber les crues quand il y en a et restituer lentement l'eau quand elle a été stockée dans un sol meuble.
Alors je sais que des agriculteurs sont très intéressés, s'intéressent de plus en plus aux vers de terre, en particulier des vignerons, mmh. et je crois plutôt dans le bio, parce qu'ils savent aussi que ces vers de terre fertilisent les sols. Alors comment faire en sorte que on ait plus de vers de terre dans son jardin ou dans son sol ?
Alors, en fait, ils s'y intéressent à tel point qu'il y a même des entreprises qui se sont lancées dans la production de vers de terre. On peut acheter des vers de terre. Et oui, il y a des entreprises, y compris en Île-de-France, qui vendent des vers de terre si vous voulez enrichir votre sol. Mais avant ça, évidemment, il faut se tourner vers des pratiques agricoles qui sont respectueuses du milieu, puisque ce vers de terre dépend d'un milieu en bonne santé. Donc, ne pas faire des labours trop profonds, aérer régulièrement son sol, garder une bonne humidité, éviter les tassements, éviter les traitements autant qu'on peut, et avoir des traitements qui soient les moins agressifs possibles. Et qui ne migrent pas vers le sol. Donc vraiment, se tourner vers une agriculture qu'on connaît bien, qui est productive, qui est rémunératrice pour les agriculteurs et qui n'est pas trop agressive pour le milieu.
Mais ça veut dire que vous achetez des vers de terre comment ? C'est au poids ? C'est... Je ne vois pas comment...
Vous les comptez ?
En fait, vous en achetez un certain nombre, c'est-à-dire qu'ils sont capables effectivement de les compter et nous les donner, mais vous savez aussi peut-être que chez soi, on peut avoir ce qui s'appelle un lombricomposteur, c'est-à-dire un compost qui utilise des lombriques pour accélérer en fait la décomposition des matières organiques et nous donner très vite du terreau. Ça évite en plus d'avoir un compost qui tourne mal et qui commence à faire du liquide et un peu de méthane qui est un gaz à effet de serre très grave. Donc on sait que ça fonctionne très très bien et que oui, les lombriques sont nos amis.
Alors j'ai lu aussi que pour recenser les vers de terre, parce que ça c'est un problème, le recensement des vers de terre, parce qu'on peut pas leur, on peut pas, ils peuvent être très profonds hein, dans la terre, on peut se servir de moutarde diluée.
Tout à fait. C'est un truc assez classique et qui n'est pas trop agressif et qui ne leur nuit pas. C'est que vous diluez de la moutarde dans un grand arrosoir avec vos enfants, par exemple. Vous dessinez un mètre carré avec des ficelles et vous arrosez uniquement ce mètre carré pour avoir une idée de quelle densité de vers de terre vous avez au mètre carré. Et vous allez les voir tous sortir très rapidement parce qu'ils sont très incommodés par la moutarde.
Ah, ils n'aiment pas la moutarde.
Ils n'aiment pas, mais c'est comme nous, ça les pique pas très longtemps, donc rapidement ils retournent dans le sol après.
Et donc là, vous comptez les vers de terre. Alors, une bonne terre, c'est quoi au mètre carré, le nombre de vers de terre ?
Écoutez, si vous trouvez 10-12 vers de terre au mètre carré dans votre jardin, vous avez un jardin qui va plutôt bien. Si vous en trouvez moins, il faut vous inquiéter de savoir si vous n'avez pas des pollutions résiduelles ou si vous-même, vous n'utilisez pas des produits qui sont trop agressifs pour votre sol et qui vous font du mal.
Il faut faire du bio.
Et voilà.
Tout simplement.
Pour faire du bio, il y a d'autres manières. On n'est pas obligé d'être labellisé bio pour avoir une des pratiques qui soient écologiques. Mais en tout cas, il faut faire raisonnablement. Il faut se dire que chaque fois qu'on peut éviter de traiter, qu'on peut faire à la main, il faut le faire. Souvent, quand c'est son propre jardin, on n'a pas des superficies telles qu'on puisse pas le faire à la main et mécaniquement plutôt que chimiquement.
Et oui. Alors, que demandez-vous à l'Union européenne avec cette pétition ?
Alors cette ICE, cette grande pétition européenne qui est un petit peu compliquée à remplir, hein. Il faut savoir que les Européens vont avoir à rentrer leur carte d'identité, un certain nombre de détails comme ça un peu fastidieux. Mais ce qu'on demande, c'est d'avoir enfin une loi pour protéger les sols, parce qu'il n'y a pas de loi qui protège les sols en Europe. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association écologique, nous ne pouvons pas agir contre des gens qui détruisent les sols, parce que nous ne pouvons pas nous retourner contre eux et les obliger à respecter certaines pratiques. Donc nous avons absolument besoin d'une réglementation qui dise qu'on a le droit ou pas le droit de faire.
Merci beaucoup Benoît.
Merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes directeur de France Nature Environnement.
Voilà.
Merci. Merci beaucoup.
En tout cas, c'est bien de défendre ces petits animaux, j'allais dire, envers et contre tout. Finalement.
Et vous savez, c'est pas parce que certains animaux nous semblent moches qu'ils méritent pas d'être protégés. En fait, on a vraiment besoin de tous ces animaux-là.
Eh oui, comme je vous dis, depuis le 19e siècle, Charles Darwin avait dit, il faut sauver les vers de terre. Ce ne sont pas des nuisibles.
Parfait. Voilà. Laetitia, on va terminer ce rendez-vous animaux par un cani triathlon cet après-midi.
Oui, il a lieu à Vieux-Beaucoup. les boucaux
vieux
les
boucaux.
Bains.
Non. Vieux boucaux les bains.
Les
alors
bains,
on va demander à Damien
à
si on a bien prononcé. Voilà. Bonjour Damien.
Nous sommes avec Damien Médan, qui est un confrère vétérinaire, qui est cofondateur de l'association Les Toutous Surfeurs. On en avait parlé d'ailleurs l'année dernière.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, c'est bon, on a bien prononcé le nom?
Oui, c'est ça, vieux boucaux les bains.
Voilà. Alors, c'est quoi un triathlon canin? Dites-nous quelles sont les trois disciplines.
Alors, en fait, on va organiser le premier triathlon canin qui associe paddle, VTT et cross.
Alors, le paddle, c'est la planche sur l'eau où on est debout et le chien vient sur la planche, c'est ça?
Voilà, c'est ça. On est debout sur la planche avec une pagaie.
Oui.
Et le chien sera sur la planche avec nous et devra donc avec son propriétaire faire le parcours.
D'accord.
Donc il a le droit de faire du paddle, mais il est possible aussi de faire du canoë ou de partir à la nage. En fait, tout est possible. Hein.
Tout est possible, oui, parce que moi je sais pas si mon chien tiendrait sur un paddle. Hein, entre
non,
nous.
Pas forcément. C'est pour ça qu'on veut que tout le monde puisse participer quand même. Donc ça sera plus simple s'il suffit simplement de faire le parcours sur l'eau.
Et après on fait la course, le canicross, c'est ça?
Voilà, ensuite, dès qu'on est sorti de l'eau, on prend le VTT, on attache la laisse du chien au VTT et on part pour un parcours de cani-VTT sur
oui.
4 km. Et ensuite, on refait un tour du lac sur 4 km à nouveau en cross.
Dites, il faut vraiment qu'on soit... Alors, je parle pas de nous, mais au moins le chien doit être super sportif pour faire ces trois activités quand
oui.
même.
Oui, oui, quand même, il faut un chien qui soit sportif, qui soit en bonne santé. Parce que ça fait quand même une trotte. Ouais.
Alors comment va se passer la journée? Parce que bon, j'imagine que tout le monde va pas participer au triathlon. Il y aura d'autres activités pour ceux qui viendront avec leur chien.
Oui, donc tous les gens sont les bienvenus effectivement pour regarder déjà. Et comme autre activité qu'il y a sur place, on va proposer des initiations au paddle avec ton chien. Donc les gens qui viennent avec leur chien pourront faire des initiations sur le lac.
Oui. Bah,
tu auras pas du tout de vagues, c'est vraiment très
c'est
calme,
bien.
C'est facile.
Oui.
On a pied assez loin, ça va être vraiment tranquille. Et ça, les initiations seront encadrées par quatre éducateurs canins et quelqu'un qui connaît bien en paddle.
Et le chien aura sa petite sa bouée de
voilà,
sauvetage.
C'est ça, le chien aura un gilet de sauvetage.
Oui.
Sa petite récompense pendant et après l'effort, voilà, il sera bien traité. Et il y aura des démonstrations de chiens de sauvetage en mer aussi qui auront lieu pendant toute la journée.
Ah bah très bien, comme ça on peut venir en famille.
Oui, on peut venir en famille, ça va être sympa, oui.
À quelle heure, où vous retrouvez et à quelle heure?
Alors, ça va être sur la plage du lac marin de Vieux-Boucaux-les-Bains.
Oui. Mmh.
Parce qu'il y a il y a une plage de l'océan et il y a une plage aussi du lac. Donc, c'est sur le lac. Donc, c'est pas difficile de nous trouver au poste de secours.
Eh bien, si tout.
Et on va mettre des stands, on va être bien visible. Et la première course va démarrer à 10h30.
D'accord.
Et on fait plusieurs départs pour pas faire partir 50 chiens en même temps. On va faire un départ toutes les heures et demie sur toute la journée.
La météo est correcte, Damien, aujourd'hui, ça va?
La météo, alors ils annonçaient de la pluie, mais pour l'instant, il pleut pas.
Bon.
C'est nuageux, mais ça paraît bon.
Parfait, merci beaucoup Damien et bonne journée.
Avec plaisir.
Bonne
merci.
Journée, donc le cani triathlon, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la première fois en France, hein, Damien, c'est bien. C'est
parfait.
À Vieux-Boucaux, les bains dans les Landes, voilà, merci à vous. Hein.
Et comme dirait Laetitia, merci beaucoup Damien. Enfin, elle n'a pas dit merci beaucoup, elle a dit au début que c'était beaucoup, mais c'est pas ça.
Boucaux les bains.
C'est pas facile, hein, Laetitia. Eh ben oui, c'est dimanche matin, on arrive à la fin, là.
Mais j'aimerais bien y être, là-bas.
Et comme on parle de sport aquatique, on sort un peu les rames, parfois.
J'adore la transition. Vous avez fait mieux, quand même, François.
Oui, c'est
hein.
vrai, c'est vrai.
C'est pas
petite vidéo lolcat qui nous attend sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Voilà, une vidéo de chien surfeur, Laetitia.
Bah oui.
Bah attendez.
On est dans le thème.
Quand même, évidemment. Laetitia,
oui,
on sera là dimanche
on
prochain.
On peut apprendre le surf à son chien,
évidemment,
bien sûr.
Évidemment. On se retrouve dimanche, bien sûr, 6h-8h.
Bon dimanche à tous, je vous embrasse, à dimanche prochain.
Et dans un instant, lui surfe entre les injecteurs, les batteries, mais aussi les pneus et les ABS. Lui, c'est Jean-Luc Moreau.
Oui, bonjour, bonjour.
Comment ça va, Jean-Luc?
Moi, je suis très intéressé par le lombric triathlon. Vous pensez que ça va exister un jour, ça?
Ça risque d'être passionnant. Si je peux permettre, je pense que là, on peut capter des millions d'auditeurs.
Bah oui, ça. Et on n'aura pas besoin de se déplacer loin pour voir l'arrivée, c'est l'avantage.
C'est sûr.
C'est sûr.
Tu peux prendre un peu de recul.
Un petit peu de moutarde, ça va les...
ça va les doper.
Les doper.
Laetitia, à dimanche, et dans un instant, ça sera Jean-Luc Moreau pour notre rendez-vous auto, comme chaque dimanche, 8h-10h sur RMC, à tout de suite après la météo et les infos.